Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, bonjour à tous. J'aimerais que nous fassions une lecture dans notre Bible. Dans le livre des Nombres, au chapitre 12, ça va comme ça, attention, ça touche.
C'est bon.
Oui, je parlais un peu plus fort. Ouais. Un peu, d'accord. Ça va ? Très bien. Voilà, je vous ai dit bonjour.
Oui.
Bon, alors ça fait la troisième fois. Ouais, voilà. Hein. Alors, nous allons ouvrir une page de notre Bible dans le livre des Nombres, je vous l'ai déjà dit, au chapitre 12. Et il est question d'un sujet qui nous concerne tous, sans exception, même les meilleurs. Alors peut-être vous avez vu le titre sur votre Bible. Il est question de Marie. Moi j'ai une Marie, qui s'appelle Myriam. Mais c'est pas de toi que je parlais, ma chérie. Est-ce que tu n'es pas comme ça? Voilà. Et on va lire quelques versets. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent : est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle ? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun autre homme sur la face de la terre. Si nous voulons donner un titre à notre réflexion, c'est une étude ce matin. Je dirais une vilaine maladie. Ouais, une vilaine maladie. Je l'ai dit et je le répète pour les meilleurs. Dans la meilleure église, dans la meilleure congrégation, eh bien c'est quelque chose qui ne manque pas d'apparaître à un moment ou à un autre. Vous avez vu, Marie et Aaron, qui était quand même, comment dire, pour vous illustrer la chose, le pape. Ben oui, c'était le grand prêtre, le souverain sacrificateur. Et comme quoi on peut tomber dans toutes sortes de choses mauvaises, parce que la parole est un vecteur de bien, mais aussi des choses les plus terribles. Alors, entraîné naturellement par Marie, le grand prêtre d'Israël, eh bien, a emboîté le pas de sa sœur, puisque les trois sont de la même famille, Moïse, Aaron et Marie. C'est un message à double sens. La lèpre est un mal physique. Il y a encore aujourd'hui des millions et des millions de personnes sur certains continents qui sont atteints de la lèpre, qui sont là, et bien, finalement, et bien, à souffrir de ce mal qui est une destruction de nos membres, qui est une destruction, finalement, de notre corps. Un mal physique. Et il a pour but de défigurer, et il est contagieux. Enfin, disait-on dans une certaine époque, contagieux. Alors on a créé des léproseries pour ça. Et puis c'est un mal caché. Et là, nous allons faire ressortir le côté spirituel de la chose. Et d'ailleurs, les Juifs n'y sont pas trompés, parce que dans les commandements que nous avons dans le Pentateuque, la lèpre est toujours assimilée au péché. À la mort, mais au péché particulièrement, symbolisant finalement la ce qui est mauvais, ce qui est mal, dont l'expression en est la critique, et tout simplement la mauvaise langue et les mauvais sentiments. Voilà, c'est pas la peine de chercher plus loin. Une vilaine maladie. Et c'est pas trop difficile à comprendre, puisqu'il n'y a rien à ajouter quand la parole nous dit que le péché, c'est la mort, que le péché, eh bien, il engendre toutes sortes de maux, ça caractérise, eh bien, l'homme pécheur. Cette humanité qui est aux prises avec le mal original, ou originel, si vous voulez. C'est avant tout un état d'esprit dont nous ne sommes pas conscients. Ouais. Personne dira, vous savez, faites attention avec moi parce que je critique. Parce que j'ai une mauvaise langue. Personne, à moins que vous ayez entendu, il n'y a que quand il y a une demande de pardon, les gens disent, oui, j'ai critiqué. Je suis atteint d'un mal qui est celui, j'ai la langue trop pendue. Enfin, bon, vous voyez ce que... Maintenant, on peut avoir la langue très pendue et puis rien dire. Alors, c'est un état d'esprit dont, eh bien, quelque part, nous ne sommes pas toujours conscients. Et nous allons parler, justement, d'un phénomène que l'on appelle la médisance. C'est quelque chose, dans toutes les sociétés, qu'elles soient, oh, je me retiens pas, la politique, tout est parfait dans ce domaine. Que ce soit la politique, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les églises, ça c'est vraiment le lieu où il ne faut pas la trouver, hein, cette vilaine maladie, naturellement. Hein. Alors, elle a pour origine une sorte, c'est subtil, hein, une sorte de plaisir et de satisfaction dissimulée, parce que personne ne l'avoue, naturellement, à se complaire, à relever les fautes, un trait ou des traits de caractère et des erreurs d'une personne, et nous savons que tout cela, eh bien, est en faire étalage. C'est ça la médisance. Alors je voudrais donner une définition, on va en prendre d'autres, hein, des définitions de la médisance. Parce que tout le monde n'est pas trop conscient de tout cela. Hein. Alors, plaisir et satisfaction de se complaire à relever les fautes. Vous avez vu les oreilles qu'il a? Vous avez vu le nez qu'il a? Et puis, toutes sortes de choses. Vous avez vu comment il se comporte? Vous avez vu comment il parle aux autres? Ceci, cela. Et vous savez, vous le diriez à brûle pour point à la personne qui est concernée, elle dira, mais non, non, je ne suis pas comme ça. Et pourtant, alors on verra tout à l'heure, à la fin, les critiques positives et les critiques négatives. Parce qu'attention, il ne faut pas, en sortant de l'église, en disant, maintenant, ça y est, j'ai fait un vœu au Seigneur, je ne dirai plus rien. Alors vous allez gagner peut-être en tranquillité, mais pour ceux qui vivent avec, naturellement. Non, non, je ne veux pas aller jusque-là. Donc, ça met en évidence un trait de caractère, l'erreur ou des erreurs commises, ou le péché, et puis le faire, le répondre. Vous savez, il est comme ça, hein, ou elle est comme ça. Aïe, 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 c'est pas possible d'avoir une conversation parce que vous êtes sûr que ça part. C'est le téléphone arabe, vous savez, hein? Je ne sais pas s'il existe vraiment le téléphone arabe, mais enfin, tous les cas, ça suit, ça part. Et puis, il y a Yves Duteil qui a écrit sur la médisance, vous savez, qui court, qui court, qui court, et puis une fois que c'est parti, hein, et on ne l'arrête pas. Et quelquefois même, des années, des décennies après, même voire des siècles, on est avec des idées préconçues. Il était comme ça, enfin, il y a les grands hommes, hein, qui ont droit à ça. Parce que nous, on aura disparu depuis longtemps, on disparaît, c'est vrai, on disparaît. Dans la sphère de la foi, et là je me remets sur le contexte de l'enseignement qui nous est donné, elle a pour racine la jalousie. Alors, la jalousie, je voudrais le rappeler parce que je l'ai rappelé très souvent, c'est un proverbe grec, moi j'aime bien les proverbes, et dans chaque prédication, je viens avec des proverbes. Mais bon, c'est pas les proverbes de la Bible, hein, naturellement, mais quelquefois il y a des vérités qui ont été écrites à travers les temps, et qui quelque part, eh bien, nous parlent encore aujourd'hui, qui corroborent, eh bien, la grande sagesse du livre des proverbes de la Bible. Écoutez bien, j'ai dit, il y a un instant, la jalousie. Alors, il y a une différence à faire entre l'envie. C'est la douleur de voir autrui jouir de ce que nous désirons nous-mêmes. Ah, il a ça, vous vous rendez compte? Il a une belle voiture, il a une belle maison, et moi je regarde, je convoite et je me dis, mais j'en suis privé de tout ça. Donc, ce que nous désirons, alors que la jalousie, c'est la douleur. Il y a une douleur dans les deux cas, mais la douleur nous fait pécher. Hein ? Ah oui ? C'est la douleur de voir autrui posséder ce que nous ne possédons pas. Et de dire, eh bien voilà. Et peut-être ouvrir des créneaux pour peut-être, à chaque fois, avec un petit pic, avec une réflexion, avec des sous-entendus, avec des suppositions, de dire, bah oui, mais bon, vous savez, sa maison, c'est peut-être pas venu tout seul, etc., etc. Bon, alors c'est ça justement la médisance, on parle, et puis on le dit aussi autour de nous. C'est dangereux, c'est vraiment dangereux. Alors, dans la sphère de la foi, je disais il y a un instant, elle a pour racine la jalousie. Et moi, je ne voudrais pas parler seulement de la jalousie purement humaine, comme on trouve voilà, partout, mais la jalousie qui a pour nature la convoitise des choses spirituelles. Il y a peut-être des hommes et des femmes qui voudraient avoir une place, qui voudraient avoir un titre, qui voudraient avoir une fonction, qui voudraient avoir ceci et cela parce qu'ils ont vu un prédicateur, parce qu'ils ont entendu des prédications qui sortaient de l'ordinaire, quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui a la maîtrise, toutes sortes de choses, et de dire, je l'entends, mais moi je le trouve pas très bien, parce que si j'étais à sa place, je serais encore mieux que lui. Attention, attention, c'est ça la médisance, hein. Et de le dire autour, pour essayer de casser finalement eh bien, la réputation d'une personne qui peut être fort bien, et quelque part pour lui dire, mais vous savez, il n'est pas ce que vous croyez, hein. Mais alors ça ne se dit pas peut-être de la même manière que je le formule, mais ça se dit quand même, et les autres qui sont en face, ils ont entendu la bouche parler de quelqu'un, mais c'est resté dans leur oreille, hein, dans leurs oreilles, et ça ils ne l'oublient pas, et quand ils auront l'occasion de porter la nouvelle, la bonne nouvelle à quelqu'un d'autre, ben comme ça tout le monde sera catalogué. Alors voyons Marie. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse. C'était peut-être pas forcément le personnage auquel il fallait s'attaquer, hein, parce qu'il était un petit peu particulier, mais bon, tous les cas. Et nous voyons que la punition emblématique a été la lèpre. Et c'est très courant dans la Bible. La lèpre est finalement, eh bien là, le symbole eh bien, du péché, et particulièrement du péché de la langue. Alors, vous n'avez jamais eu la lèpre? Non? Parce qu'ils vont donc vous aurait évacué, hein? C'est contagieux. On ne serrerait même plus la main. Ben, ça prendrait la suite de la... Vous savez là, ce qu'on a eu là il y a 2 ou 3 ans. Hein. Enfin, voilà. Je voudrais mettre en avant Marie. Et je dirais ceci. Eh bien, c'était une femme de grande qualité, sincère et fervente. On ne va pas dire le contraire. Elle était la fille aînée de la famille. Alors, je ne me souviens plus du nom de... Père de Moïse, enfin, c'est écrit, hein, mais je n'ai pas été chercher. Et nous voyons qu'elle s'est distinguée par 2 choses particulières. Une femme de bien. Et comme je l'ai dit, on peut véritablement eh bien, être tout ça à la fois et puis avoir des travers. Parce que ça nous tient modestes, hein, de toute façon. Elle va sauver son petit frère, Moïse, le dernier de la famille, à sa naissance, lorsque l'enfant nouveau-né est abandonné sur le Nil, ordonner la noyade des petits-enfants hébreux, et bien là, par Pharaon. On le connaît, ça. Elle a du courage, quand même. Cette jeune fille, elle était jeune fille à l'époque. Hein. Et de dire, eh bien voilà, moi, c'est mon petit frère, mais je le sauve. Et elle n'avait pas la pensée qu'il allait devenir un des plus grands hommes sur la terre. Et vous avez remarqué avec moi, on pouvait peut-être pas en parler comme ça dès le départ, mais à la fin, il était comme ça. Moïse était l'homme, un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. Je pense que chacun d'entre nous, nous aimerions avoir cet éloge de Dieu. Un homme, une femme fort patient, plus qu'aucun homme ou aucune femme sur la terre. C'est beau, hein? Et c'est Dieu qui rend témoignage, hein? C'est pas les autres, hein? Les hommes se cassent les uns les autres, mais Dieu nous donne finalement, eh bien, l'ascension, on pourrait dire. Alors, ce sont les hauts faits de Myriam. Cependant, eh bien, tout n'est pas forcément, eh bien, tout n'est pas parfait. Et nous voyons que plus tard, dans la suite de cette histoire, Elle va entraîner les Hébreux, un peuple entier, plus de 2 millions de personnes, entraîner les Hébreux à la louange de Dieu Sauveur et de Moïse triomphant. Elle va mettre son frère en avant. Et ça va être finalement le cantique de Marie. Il y a un très beau cantique, vous pouvez le relire, il n'est pas loin d'ici là. Hein. Vous verrez, je crois que c'est dans le livre de l'Exode. Voilà, un très très beau cantique. Et elle était poétesse aussi, elle était prophétesse. Prophétesse dans le premier cas et poétesse dans le second. Hein. Alors, c'est très intéressant de tout ça, mais je voulais le mettre vraiment en avant, parce qu'on n'est jamais tout noir, tout blanc, mais on est tous gris, hein, façon de parler. Hein. Ouais. Ça dépend des temps, des circonstances, ça dépend finalement de certaines situations. Beaucoup plus tard, à la suite de la traversée miraculeuse, donc, de la mer Rouge, et c'est ce que j'ai dit il y a un instant, elle va honorer son frère, et d'ici quelque temps, elle va le dégringoler. Excusez-moi, elle va le... Comment pourrait-on dire? Elle va le descendre. Et elle va pas... Elle va allumer un feu. Mais un feu qui n'est pas celui sur les braises. Hein. Ça va être autre chose. Hein. Ça va être autre chose. Ce sont donc les hauts faits de Myriam qu'il fallait souligner. Cependant, elle reste avec un atavisme récurrent. C'est la jalousie. Elle voit son frère. Elle est dans le peloton de tête, en quelque sorte. Elle est parmi les trois grands du peuple hébreu. Et pourtant, c'est elle qui va entraîner le peuple. C'est elle qui va faire le mal. C'est elle qui va faire ce qu'il ne faut pas faire naturellement. Et nous voyons que ça, c'est un atavisme qui remonte à notre nature humaine de pécheur depuis le jardin d'Éden. Hein. Voilà. Et nous voyons que c'est quelque chose de récurrent, la jalousie. On ne sait pas ce qui se passe dans les cœurs. C'est vrai, on ne sait pas. Moi, je vois à pas. Maintenant, on peut avoir des sentiments à un moment ou un autre pour ceci, pour cela, même dans les choses spirituelles. J'en ai parlé tout à l'heure, une jalousie qui naît et qui va non seulement pourrir la vie des autres, on va les souiller, mais on va se souiller soi-même. Hein. Parce que là, c'est comme la lèpre. Hein. Ça vous mange, ça vous dévore. Et ça, ce n'est pas des plaisanteries. Hein. Et vous verrez que la médisance, elle est souvent présente dans toutes les histoires, dans toutes les études que nous avons dans la Bible. Eh oui, vous ne croyez pas que Jésus était jalousé? Vous ne le direz pas. Hein. Mais vous savez, il guérit, hein, Jésus. Mais c'est par les démons qu'il guérit. Hein. Ah, péché contre le Saint-Esprit. Ah oui, il a fait ceci, il a fait cela, mais c'est pas désintéressé. Ben, il y en avait un, mais je ne peux pas en parler ce matin, parce qu'il n'était pas très intéressant. Et c'est Judas. Hein. Ouais. Il savait qu'il y avait de l'argent qui rentrait. Puis, il couvait de temps en temps, il n'avait pas l'air de regarder le tronc, mais il mettait sa main. Il retirait ce qu'il avait besoin. Voilà, enfin bon, c'est un petit peu mimé, moi, ce que je suis en train de faire ce matin, mais voilà. Hein, donc, et nous voyons que ça, c'est la lèpre de la langue, et retenons que personne ne peut se vanter d'être meilleur et plus spirituel que les autres de quelque péché que ce soit, naturellement. Alors, les raisons sont controversées. Et nous allons un petit peu plus dans notre réflexion. Remarquez, vous allez me dire, c'est stupide. C'est tout bête. Je ferai un langage tout à fait populaire. Mais c'est complètement loufoque, hein, cette histoire. Hein. Vous savez, c'est... Parce que Moïse avait pris une émigrée, une étrangère, une éthiopienne, une africaine, enfin, on peut dire tout ce que l'on veut, et ça avait suscité la convoitise, enfin disons la critique en tous les cas, de sa sœur. Mais comment se fait-il qu'un homme comme Moïse, chef du peuple des Hébreux, prince d'Israël, prenne une étrangère? Ben, il y en a eu des étrangères hein, qui ont même été dans la filiation, qui ont donné Jésus le Messie, sauveur du monde. Hein. Ça vous dit quelques noms, hein, peut-être, vous les avez. Hein. Et bien voilà, et ça c'est le pied de nez, excusez-moi, je vais retirer ça parce que c'est pas physique, du Seigneur, pour dire, ben vous croyez malin, hein. Mais moi je vais vous dire que je suis capable, allez, d'aller sauver mon peuple, mais d'aller sauver aussi des pauvres gens hein, qui ne connaissent rien à rien, c'est des païens, ils sont encore livrés à leur, hein, à leur tradition et à leur religion, à leur mythe. Et bien moi je suis capable d'en faire des grands hommes. Eh oui, il n'avait ni regret, ni éclat, ni comment, ni éclat,
ni
beauté pour attirer les regards. Et ben, c'est celui-là que Jésus a choisi pour être le sauveur de tous les hommes. Éthiopienne, critique sur Moïse à propos de ce mariage qui déplaisait à la famille et même entraînait Aaron. Je ne sais pas s'il célébrait les mariages à l'époque, mais il n'a pas dû être là. Tu te maries avec une étrangère, mais moi je ne veux pas aller à ton mariage. Hein? Voilà, tu me décommandes du traiteur et puis moi je ne viens pas, hein, c'est tout. Hein? Ben bon, j'ai décidé par farfelu quelquefois. Et il était quand même le grand sacrificateur, il était l'autorité où on regardait vers Aaron. Et on disait, mais Moïse, ah, Aaron, mais ce sont des gens qui sont tout à fait, eh bien, exceptionnels. Parce qu'il avait une autorité morale, et lui va tomber dans le panneau. Et ce n'est pas la première fois qu'Aaron il tombe dans le panneau, comme on dit. Hein? Au Mont Sinaï, là, comment il a dit... voilà, pour le veau d'or, vous connaissez, hein. Allez, mesdames, enfin, je ne veux pas vous le demander aujourd'hui, parce que vous n'êtes peut-être pas venu avec toute votre fortune de bijoux, mais donnez-moi vos alliances et tout ça, et moi, je vais les fondre. Voilà, ben, c'est ce qui s'était passé. Hein. Et nous voyons que ça va entacher la foi des Hébreux. Ça ne paraissait pas comme ça, de critiquer sa belle-sœur, mais ça va jeter quelque chose qui va être un discrédit sur le peuple d'Israël. La nature de cette aigreur, parce que c'est bien ça, amertume, aigreur, hein, tient aussi sur le fond de jalousie, sur un fond de jalousie, dont le prétexte est le positionnement éminent de Moïse, qui a été désigné, qui a été choisi, qui a été assigné, tout simplement par Dieu. Et nous voyons que c'était avant tout une affaire intrafamiliale. Qu'est-ce que le peuple avait à faire avec ça ? Qui se marie avec l'une, qui se marie avec l'autre, hein, qu'elle soit ceci, qu'elle soit cela, mais ça ne les regardait pas. Allant jusqu'à une affaire nationale. Vous savez qu'aujourd'hui, la moindre petite chose des gens qui sont connus en politique ou en, je sais pas, en showbiz, on en fait toute une histoire. Moi, quelquefois, ça m'arrive de regarder certaines choses là, sur Internet, mais rarement, hein, je vous le dis, hein, j'y passe pas mes journées, mes nuits. Hein. Mais quelquefois, je me dis, mais qu'est-ce qu'on en a à faire ? Et ça fait une affaire d'État. Ça fait une affaire politique. Et je me dis tout ça, ça s'égrène, ça va de droite et de gauche. Ça vous est arrivé d'avoir la même... c'est pas, je veux pas dire que j'ai raison, mais je me dis, mais on est complètement cinglé, on marche à l'envers. Hein, dans un monde tel que le nôtre, ça c'est terrible. Devenu une affaire nationale devant assumer deux frondes, Moïse. Hein, deux frondes, ce n'était pas une petite affaire. C'est pour ça qu'il est marqué à un moment donné, il était un homme fort patient. Ben, fallait avoir de la patience, il fallait avoir les épaules larges. Hein, pour prendre ce qu'il avait déjà pris quand il était en Égypte, dans le pays de Pharaon, et quand après il est reparti pendant 40 ans au désert, c'est pas une petite affaire, hein, 40 ans au désert quand il fait chaud, c'est pas tout à fait... Et puis nous voyons que il y avait d'abord les indisciplines incessantes du peuple et les agitations familiales, un à l'extérieur et l'autre à l'intérieur. Il y en a qui sont drôlement servis, hein, familialement, et même sur le plan, peut-être, d'une réputation qu'on leur a faite à l'extérieur. C'était des tensions de proximité, c'était pas de dire au loin, voilà, il est comme ça et comme ça, et non, mais c'était vraiment, c'était comment dire, c'était une torture probablement pour Moïse. Et voilà l'éloge qui est donné par Dieu, l'homme le plus patient. Dans un autre texte, il est dit, l'homme le plus doux de toute la terre. Ça nous fait rêver, non ? Ça vous arrive de vous mettre en colère ? Ouais ? Je vois que c'est l'enthousiasme, c'est passionnel. Pfff ! Personne ne répond, mais moi je ne suis pas là pour vous juger. Hein, parce que ça m'arrive moi aussi. Soyons vrais. Alors, tout ça, eh bien, Moïse a supporté. Et tout cela, Moïse, eh bien, critiquer Moïse, ça voulait dire tout simplement... s'en prendre à Dieu. Et pourquoi s'en prendre à Dieu ? Pourquoi elle a ouvert la vanne, Marie, pour s'en prendre à Moïse, et que de Moïse, ça arrivait à qui ? Et l'Éternel l'entendit. Parce que critiquer Moïse, critiquer un responsable spirituel, lui faire un manteau, ou je ne sais quoi, là, hein, lui faire, voilà, eh bien, c'est quand même critiquer. C'est critiquer Dieu, vous savez pourquoi ? Parce que une chose qui est certaine, c'est que dans son choix, c'est Dieu qui a mis Moïse à sa place. Dans son choix, nous voyons que Il avait été élu à la première place pour conduire un peuple. Moi, je voudrais pas être président de la République. En 2027, ne votez pas pour moi, je ne me présente pas. Hein, c'est pas la peine. Hein. Pas la peine, parce que je n'aurais pas été à la place des responsables. Et il avait été favorisé par Dieu, par l'Éternel. Et il y a aussi, c'était un prince régnant, il était, on peut dire un roi. Et il avait eu des révélations. Et il avait eu des visions. Et ça, c'est peut-être la chose que Marie ne supportait pas. Comment ? Mon frère, on est de la même famille et on n'a pas le même appel, etc., etc. Elle s'était imaginé qu'elle était finalement... Non, Moïse, c'était Moïse. Aaron, c'était Aaron dans la religion. Et puis elle était prophétesse, tout simplement. Et oui. Et pour elle, c'est quelque chose qui était devenu insupportable. J'aimerais faire une réflexion avant d'aller plus loin. Attention à ne pas entretenir des racines, selon le texte biblique, dans Jacques, je crois, des racines d'amertume. Il y a des gens qui, quelquefois, cultivent à l'intérieur, ils ne peuvent pas s'en passer, c'est devenu une obsession, c'est devenu quelque chose dont ils ne peuvent pas se défaire. Même s'ils peuvent penser à autre chose, ils reviennent toujours à la même chose. Elle m'a fait du mal, elle m'a critiqué, elle a fait ceci, je lui pardonnerai jamais. Alors là, on prend des risques. Aimez-vous les uns les autres, hein, mais vous allez dire, c'est pas facile que ça ne l'est. Parce que ça suppose la repentance. Hein, et ça suppose aussi qu'on se mette à plat ventre. Eh oui, vous savez ce que c'est, hein, c'est s'humilier, tout simplement. Alors, nous voyons que ces racines d'amertume, que l'on voit et que l'on critique chez les autres, pour les choses qui sont convoitées, et que nous n'avons pas nous-mêmes. Mais être prophète, qu'est-ce que c'est ? Être pasteur, qu'est-ce que c'est ? Et je ne me suis pas fait d'illusion, moi. Parce que quand le Seigneur m'a appelé, je ne voulais pas être pasteur. Enfin, au départ, quand j'avais 20 ans, je disais, c'est formidable, c'est bien. Mais quand je suis rentré dans le ministère après des années, je me disais, non, Seigneur. Et c'est Myriam qui n'était pas prête quand j'étais prêt, et que finalement, quand... il a été temps de se lever, de tout abandonner dans notre vie, hein, vraiment. Même le salaire, la profession et tout ça. Elle me dit, vas-y, vas-y, vas-y. Eh oui, mais c'est comme ça. Hein. Et moi, je ne voulais plus. Parce que c'est comme ça. Parce qu'on est prêt à ce moment-là. Et je ne me suis jamais fait idée sur, véritablement, la fonction de pasteur. On est des hommes comme les autres. Parce qu'il faut être accessible aussi. S'ils vous voient comme vraiment des sommités. Ben, les gens se trompent. Hein. Et c'est souvent ce qui se passe. On a toujours l'image du curé dans l'église traditionnelle et tout ça, etc. Mais on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça, naturellement. Maintenant qu'il y a une autorité, ça c'est sûr. Hein. Parce qu'il y a des choses où il faut être clair, net et précis. C'est pas facile hein, de reprendre des gens. Hein. Surtout quand ils sont vraiment en défaut. C'est pas facile, c'est vrai. Et vous n'allez pas être aimé, ça c'est certain. Mais c'est comme ça. Parce que ce problème de racine d'amertume, il en découlera que nos lèvres qui sont enfiévrées, cette manie que nous avons de critiquer les autres et de nous comparer en disant « je suis mieux que lui, je suis mieux qu'elle », alors à ce moment-là, en raison corrompue par la jalousie, en viennent à la médisance et d'autres mauvais sentiments. Et vous savez ce que nous dit Jésus dans Matthieu chapitre 12, il me semble. Il est dit ceci. C'est du cœur que la bouche parle. Alors, si ce n'est pas nettoyé dans le cœur, eh ben, c'est la bouche qui va parler. Et on verra que d'une source d'eau douce, il ne peut pas en sortir d'une source amère. Ou alors, il n'y a pas de conversion. Ou alors, il n'y a pas de transformation. Enfin, on verra ça tout à l'heure, pour terminer. Alors, nous allons voir maintenant, brièvement, nous allons examiner du côté de Moïse, qui était un homme, je l'ai souligné, parce que Dieu l'avait choisi, parce que Dieu l'avait mis en place, un homme remarquablement fidèle, et qu'il était ainsi, parce qu'il était regardé, parce qu'il était épié, parce qu'il était observé à la loupe, sur d'éventuelles erreurs qu'il pouvait commettre, ou qu'il a commises, parce qu'il en a commises, hein, ça c'est certain, hein, des fautes possibles. Alors il y avait tout un petit... là, dans le conseil des ministres, on pouvait dire des gens qui étaient pour espionner. Hein. C'est possible. Et surtout dans sa position de chef, si envié, en raison de tous ceux qui l'environnaient, de ses proches. Et rien n'étonnant qu'il ait pu vivre ce qu'il a vécu, mais tout le monde n'est pas Moïse et tout le monde n'a pas la carrure pour supporter tout ça. C'est pas facile, faut être vraiment appelé pour ça. Et nous voyons que par le fait qu'il servait dignement le Seigneur, Moïse était sans cesse attaqué dans son intégrité morale. Intégrité morale, oui. C'est quelque chose. Moi, il se m'est arrivé quelquefois de devoir dire des choses, voire même à des pasteurs, qui n'étaient pas intègres moralement. C'est pas que je me prends meilleur que les autres. Pas du tout. Moi, je sais, mais il fallait le dire. Parce que les choses, la manière d'être, la manière de traiter les problèmes, et la manière finalement qu'il présentait, c'était clair et net qu'il n'y avait pas d'intégrité de cœur. On est tous sortis du monde avec une éducation particulière. On est tous venus finalement comme des païens, enfin je ne sais pas, ou comme des chrétiens païens, ou des païens chrétiens. Enfin, vous le mettez dans tous les sens, ça brûle. Eh oui. Et de devoir, à un moment ou à un autre, dire à certaines personnes, il faut que ton cœur soit droit. S'il n'est pas droit, c'est fini pour toi. Alors surtout quand ils ont des responsabilités. C'est pas évident. C'est pas évident. Intégrité morale. Intégrité pastorale si on a une fonction. Et intégrité spirituelle. C'est pas la peine de raconter des histoires aux autres si on ne les vit pas nous-mêmes. Ça vous rappelle quelque chose ? Les hypocrites pharisiens. Surtout, écoutez ce qu'ils ont à vous dire, mais ne faites pas ce qu'ils font. Ça tranche. C'est un coup près, ça. C'est Jésus qui l'a dit. Alors Myriam, l'instigatrice du problème en question, contamine, tout autour d'elle, et ce qu'elle dissimule secrètement dans son cœur va apparaître ouvertement et d'une manière si soudaine sur sa peau. Ça n'a pas tardé, elle n'a pas eu un petit point blanc ici, un petit point blanc ici, toute blanche, comme si elle revenait de l'Alpe d'Huez. Elle avait fait une chute dans la neige. Ben oui, ben c'est vrai, quand vous allez là-bas, c'est pour ça qu'on met des anoraks jaunes ou rouges pour se reconnaître. Il y a énormément d'accidents là-bas. N'y allez pas, faites attention. Alors, bon, c'est bon. C'est arrivé sur sa peau, et les gens, alors dans l'entourage proche, ceux qui l'avaient entendu de près, ceux qui avaient... Alors là, ça n'a pas manqué, ils ont dit, oula, il y a une sanction ici, il y a quelque chose. Moi, je prêche non pas le jugement et la condamnation, je prêche la grâce où Dieu pardonne aux pécheurs. Eh oui, ça a toujours été, depuis 45 ans que je prêche l'évangile, ça a toujours été ça. Pour encourager les gens à revenir de leur mauvaise voie. Maintenant, il y a des gens qui vous disent « oui, puis ils n'en font rien. » Puis il y a des gens, vraiment, on voit, ils se disent « bon, non, on ne peut pas continuer comme ça parce qu'ils veulent être conséquents avec l'engagement qu'ils ont pris devant le Seigneur. » Alors, on en est là. La lèpre, quelle humiliation pour Marie, parce qu'elle était aussi vue que son frère. Et elle était connue naturellement. Et Aaron, lui, parce qu'elle a été mise de côté pendant 7 jours, mais Aaron, il n'a pas dû certainement rentrer au tabernacle, il n'a pas dû y rentrer avec la lèpre. Bah, certainement. Lui, il a eu les secousses, on peut dire. Et il est parlé de Marie qui va être mise au désert, mais bon, en tous les cas, c'est ce qu'il nous est dit d'ailleurs un peu plus loin, je vais lire le texte. La lèpre, quelle humiliation pour le frère, la sœur, parce que lui, Aaron, il était tacite, on pourrait dire tacite participant. Il aurait dû dire à sa sœur, à Marie, « Écoute Marie, non, arrête, c'est pas la peine, il pouvait se permettre, sa sœur, arrête. » Les plus proches, quand ils nous disent quelque chose, moi je pense aux parents et aux enfants qui quelquefois donnent des conseils et des bons conseils aux enfants. « Oh papa, t'es un vieux jeu. » Je vois pourquoi d'ailleurs on dit ça comme ça. Parce que moi, mon jeu, il est toujours actualisé. Je fais des mises à jour tous les jours. Enfin bon, peu importe. Myriam et moi, il va l'avouer, Aaron. Il a dû faire l'aveu, et peut-être un aveu public. Myriam et moi, dira-t-il probablement à Moïse, nous sommes tous les deux coupables. Et quand je parle d'intégrité spirituelle, eh bien c'est de cela ce que je veux dire. Un oui, c'est un oui, un non, c'est un non. Il faut le reconnaître. Mais on va se pourrir la vie, on va pourrir la vie des autres, et on ne veut pas changer. Donc ça vous plaît. Donc ça nous plaît de rester comme ça. Allez. Et je lis. Le verset, donc, 11. Où il est, ce verset ? Ah ben oui, je ne suis pas dans le bon chapitre, mais je vais vous le dire. 13, 11, voilà. 12. Ah, voilà. Et pourtant, c'est marqué dans ma Bible. Hein. J'ai un problème, là, en ce moment. Hein. C'est vrai. Je vais faire le 11, quand même, pour vous faire plaisir. Alors, Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous sommes rendus coupables. » Le 12, « Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. » Alors, Moïse, bon garçon, hein, une belle âme, Moïse, eh bien, il va tout simplement prier pour sa sœur. Il va dire, « Seigneur, je plaide pour elle. Je te demande de lui pardonner. » On voit que ce n'est pas Marie, hein, qui a été certainement culpabilisée d'avoir fait ce qu'elle a fait. Mais c'est Moïse qui va prier. Il a été le médiateur. Il a été le réconciliateur. Hein, et il a prié pour sa sœur. Et puis, elle s'en est pas mal tirée. Alors Dieu guérit Myriam, Marie, de sa conduite insensée, puisqu'il est dit, est mise à l'écart pendant, je crois, 7 jours, si ma mémoire est fidèle, car Dieu considère la jalousie comme une véritable, comme un véritable péché, et on l'appelle comment dans la Bible, la jalousie ? La carie des os et des dents. Vous savez ce que c'est que les névralgies ? J'en ai eu... j'étais servi cette semaine. Oh là 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 ! Jour et nuit, c'est pas rigolo, hein ? Je me serais arraché les dents moi-même. Mais je sais que ça aurait fait plus mal après. Ça fait mal, hein, la carie des dents, des dents, la carie des os, hein, c'est ça. Hein. Voilà, la carie des os, on peut peut-être en parler de cancer des os. Hein. Il paraît que c'est assez particulier. C'est terrible. Conséquence, le peuple est stoppé net dans sa progression pour aller vers le pays de Canaan. Il en aura d'autres arrêts et des plus longs encore, hein, 38 ans après. Hein. Et bon, c'est un peuple indocile, hein, de toute façon. Alors il est stoppé et doit attendre 7 jours le temps d'apaisement de cette affaire. Et cet arrêt est un signe de la mauvaise langue, de la désapprobation de Dieu. C'est un poison qui cause des divisions et dont nous sommes tous tributaires, victimes et responsables. Oui, victimes et responsables. Parce que quelque part, il y a un proverbe que je voudrais vous dire par rapport... Eh bien, à la critique, hein, et à la médisance, c'est qu'il y a quelque chose de tout à fait significatif dans tout cela. Et précision, qu'est-ce que c'est qu'une critique positive ? Je ne veux pas voir, je ne veux, même si c'est pas bien, je ne veux pas voir, je me tais, je... Voilà. Maintenant, il y a toutes sortes de formes d'aborder la solution des péchés. Oui, parce que si vous rentrez... finalement, dans les gens, de toute force, hein, et que vous ne respectez pas certaines règles, parce que celui qui est en face de vous, c'est votre semblable, et si vous l'humiliez, si vous le mettez plus bas que terre, eh bien, il vous écoutera jamais. Bah, bien sûr, vous l'avez, excusez-moi, vous l'avez complètement mis par terre. Par contre, il y a la forme. Et qu'est-ce qu'il nous est dit dans la Bible, quand on veut redresser quelqu'un ? Eh bien, il faut lui parler, si on connaît la personne, d'une manière qui va le rendre accessible à entamer peut-être un processus de réflexion et de repentance. Ouais. Parce que si vous lui rentrez dedans, eh bien je peux vous dire que de toute façon, vous n'aurez jamais gain de cause. Et on dira de vous, mais vous savez, moi j'ai quitté l'église, hein. Mais il faut voir aussi le pasteur, hein. Il met les gens à la porte, hein. Ça c'est sûr. Hein. Alors ça, il faut faire attention. Précision donc, la critique positive et la critique négative. Quand elle est positive, il y a quelques éléments qui la distinguent. La bienveillance. C'est une intervention auprès de la personne fautive qui doit être constructive. Il doit y avoir des fruits. La personne doit amorcer quelque chose. Ça, c'est sûr. Et ça doit être fondé sur des faits réels et non pas des oui-dire. Hein. Non pas des choses que j'ai entendues dire. Hein. Que j'ai cru entendre dire. On s'éloigne de plus en plus, là, on monte à l'Everest. Hein. Ah oui, alors, vous venez avec ce genre de choses, ça ne marche pas, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc, des faits réels, il faut être objectif, et il faut que ça soit tout simplement la vérité. Et le meilleur moyen pour la vérité, si nous sommes un peu perdus dans ce fatras, eh bien, c'est de reprendre la Bible, et non pas de verser des versets bibliques hein, que l'on fait jaillir comme ça à gros débit, parce que ça c'est pareil, hein, ça ne marche pas non plus. Mais ramener, et surtout ramener à Jésus, ramener à ce que Jésus a dit. Dans des paroles très simples, comme dans le sermon sur la montagne et tout ça. Ça, c'est apaisant. Ça, c'est bien. Et la critique négative, c'est une expression d'opposition. De dire, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Hein. Ça, faut que tu le saches. Hein. Je veux te dire des choses, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Hein. C'est cassé, ça. Hein. La contestation, la désapprobation, l'accusation visant à décourager, à juger arbitrairement, blâmer sans fondement, reprocher, je peux vous dire que notre cher frère, quand il va sortir, il va avoir la lèpre. Hein. Mais réellement. Oui. Je termine, si vous voulez. Vous voulez bien? Oui, ben, votre enthousiasme me rassure et me conforte. Ça va?
Oui,
ça va. Ouais. Vous dormez pas, j'espère?
Non.
Ah ben voilà, je vous ai réveillé. Je savais bien qu'il y avait quelque chose. Allez, en ce qui concerne, alors j'avais un petit papier sur la médisance, voilà, ça vient, alors, la médisance, écoutez bien, si tu dis du mal d'autrui, c'est grec, hein, tu risques d'entendre pire de toi-même quand il y aura le retour. Attention, ce que tu as fait, on va te faire. Un autre, proverbe général, celui qui médit auprès de toi, médira de toi. Ben oui. Si le corps est droit, il importe que l'ombre soit tordue. Comprenez ce que vous voulez comprendre. Hein. Si c'est droit, si c'est intègre, il n'y a pas de problème. Maintenant, si c'est un peu de travers, ben vous aurez le correspondant, tout ça. La médisance est fille de l'amour-propre et de l'oisiveté. Et vous avez remarqué que quand il y a des papotages, quand les gens parlent à tort et à travers, c'est qu'ils n'ont rien à faire. Ouais. On l'a vu dans les églises. Hein. Je ne critique pas. Hein. Et c'est des constatations qu'on a fait. On a fait déjà plusieurs églises. Hein. Et c'est vrai que quelquefois, je ne veux pas en dire de trop, mais, mais quand même, on a vu que les gens, ils faisaient pas autre chose que d'être oisifs, et puis voilà, ça facilite finalement eh bien, ce genre de choses. Un proverbe persan nous dit que qui dit femme autrui révèle ses propres tares et ses propres péchés. Alors ceci dit, on va terminer par tout simplement deux textes. Je les lis, hein, simplement. Alors, dans 2 Timothée, c'est clair, chapitre 2 et verset 24, revenir au bon sens et dégager les pièges du diable. Parce qu'attention, il y en a un qui guette, hein, il est caché sous les rochers, là. Hein. Il n'y a pas dans... Il y a anguille sous roche, hein, parce qu'attention, il y en a un autre. Nous sommes des hommes, mais lui, c'est autre chose, hein. S'il peut nous dégringoler, il va le faire. 2 Timothée 2,24. Ça n'existe pas, ça? Si?
2 Timothée 2.
Non, mais c'est parce que j'ai mis mes... Comment ça s'appelle? C'est 2 Timothée, voilà. Non, mais vous ne t'inquiétez pas, c'est parce que j'ai mis des marque-pages et je ne les ai pas mis au bon endroit. Ah,
voilà, c'est
bête. Ah, à qui tu le dis, hein? 2 Timothée 2,24. Voilà, il est dit ceci. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des questions. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur, alors là, c'est le cas d'Aaron, hein, ait des querelles, il doit au contraire être affable, pour tous, propre à l'enseignement, à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et voilà l'autre qui apparaît. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Vous avez vu ? Dieu est prêt à faire ce qui est nécessaire pour nous remettre dans le bon chemin. Et il y en a un, si tu veux pas, eh bien tu vas voir, tu vas faire un autre maître. Et là, il va t'entraîner dans toutes sortes de choses. Et dans Jacques, au chapitre 3 et au verset 6, il est dit cette parole. Alors là, vous la connaissez. La langue est un feu. Vaut mieux encore avoir une langue de bœuf, parce que ça ne parle pas. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée, alors là il y en a un paquet, hein. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant la cour de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, reptiles et tout ça, j'en pense, c'est les meilleures, ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel, vous voyez le mot venin, hein, c'est, voilà. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Vous vous rendez compte ? Il est notre Créateur, nous le bénissons, comme on l'a fait ce matin et comme on le fait tous les jours, et par contre, on ne se gêne pas de médire et de dire du mal sur nos semblables. De même, la bouche sorte de la bouche, sort la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait jaillir de son ouverture l'eau douce et l'eau amère. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou des vignes, ou de la vigne, et bien des figues. De l'eau salée ne peut pas produire de l'eau douce. Tous au jardin, et vous allez vérifier sur votre vigne s'il n'y a pas des bananes. Oui, et ça glisse une banane. Hein. Voilà. Alors que Dieu, excusez-moi mes familiarités, hein, mais bon, j'enseigne de cette manière, alors c'est peut-être inhabituel pour certains, mais toujours est-il que j'essaie de faire comprendre un style, tout simplement. Hein. Alors voilà, on va prier simplement, on va remercier le Seigneur. En tous les cas, je souhaite que l'Église progresse, que l'Église se développe, et que véritablement il y ait une bonne communion fraternelle, à l'exception de toutes ces caries et de toutes ces scories qui peuvent exister, parce que c'est la nature humaine, tout simplement. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu nous as enseigné ça dans l'Ancien Testament, qui était la loi, mais tu nous as enseigné dans le Nouveau Testament qu'il y avait quelque chose de supérieur. C'était véritablement la grâce, la miséricorde de notre Dieu, qui nous tend toujours une main de compassion pour reprendre le bon chemin lorsque nous l'avons quitté, surtout dans des choses qui nous apparaissent tellement, en effet, puériles, mais qui pourtant peuvent faire un grand mal. Seigneur, merci pour cette histoire. Elle a été consignée dans la Bible parce qu'il fallait qu'elle soit consignée dans la Bible. Elle a été reprise par Jacques, elle a été reprise par Timothée, pour nous donner les principes essentiels, et bien tout simplement, d'une vie bénie et une vie dont, en effet, nous sommes et bien la source d'eau pure, hein, la source qui produit véritablement la pureté. Et nous te remercions et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Merci pour ta bonté, ta grâce, et purifie nos cœurs, Seigneur. Amen. Donne-nous de réfléchir conséquemment à ce que, véritablement, et bien, nous avons vraiment besoin de toi. Tous les jours de notre vie, c'est pas l'exception de certains jours, c'est pas l'exception de certaines occasions, mais c'est tous les jours. Aide-nous à être comme Moïse, un homme doux, paisible, un homme, en effet, qui était l'homme le plus, en effet, le plus doux et le plus juste de toute la terre. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et merci de votre attention, qui a dû peut-être être pénible, mais bon, toujours est-il que voilà, j'avais à cœur ce message, mais toujours est-il que c'est tout à fait nécessaire de revenir sur les vérités de la parole de Dieu.